France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Alors que la COP30 s'est achevée hier à Belém, accouchant d'un bilan contrasté dont nous discuterons, de quelle nature doit être notre réaction à la catastrophe climatique ? Si l'écologie ne se réduit pas à des problèmes exclusivement environnementaux, mais qu'elle est une crise plus large et plus profonde, mettant en cause le rapport même que notre époque entretient avec le vivant et avec l'idée même de nature. Alors ne doit-elle pas susciter une prise de conscience plus vaste et plus radicale, touchant au fondement même de notre modernité ? Pour répondre adéquatement aux multiples enjeux de cet effondrement climatique, ne faut-il pas interroger les causes du processus qui a permis à l'espèce humaine d'arraisonner le monde auquel elle appartient, voire d'étendre cette introspection à un examen critique de notre héritage philosophique, de questionner les impensés de l'humanisme lui-même. Certes, l'humanisme désigne une école de pensée qui a porté une conception émancipatrice et universaliste des sociétés humaines, engendrant le paradigme de l'autonomie individuelle et portant une conception de la politique où prime l'idée de droit. Mais d'autre part, force est de constater que l'humanisme classique s'est construit sur de nombreux angles morts. S'appuyant sur une conception résolument anthropocentrée de la nature, ce courant philosophique accorde un privilège métaphysique à l'être humain, véhiculant ainsi une vision dépréciative ou négative des autres formes de vie, qu'elles soient animales ou végétales. Si bien qu'un certain nombre de voix, parmi les penseurs de l'écologie, accusent l'humanisme d'être, directement ou indirectement, responsable du désastre climatique. D'où cette alternative ? La prise de conscience écologique doit-elle nous conduire à remettre en cause l'héritage philosophique de l'humanisme ou bien à l'amender ? L'écologie appelle-t-elle à un nouvel humanisme ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés aux côtés des philosophes Florence Burga et Corinne Pelluchon et de la spécialiste en littérature Anne Simon.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Florence Burga.
Bonjour Nathan Dever.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'ENS et auteur de plusieurs ouvrages dont « Qu'est-ce qu'une plante ?» et « L'inconscient des animaux » notamment, aux éditions du Seuil. Bonjour Corinne Pelluchon.
Bonjour.
Vous êtes philosophe aussi, professeur de philosophie politique et d'éthique appliquée au sein du département de philosophie de l'université Gustave Eiffel et auteur de beaucoup d'ouvrages aussi, dont notamment « Les Lumières à l'âge du vivant » aux éditions du Seuil et « De la démocratie sans emprise ou la puissance du féminin » aux éditions Rivage. Et bonjour Anne Simon.
Bonjour Nathan Dever.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de littérature et de philosophie, professeur attaché au département de littérature et langage de l'ENS et auteur notamment de Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique aux éditions Wild Project. Alors, je parlais en introduction de la COP30 qui s'est achevée hier et de son bilan contrasté. On peut citer le fait, elle a eu lieu au Brésil, la question de la déforestation a été centrale dans cette COP, mais quand je parle de bilan contrasté, je m'appuie sur trois choses. Premièrement, le fait que la délégation américaine officielle n'était pas présente puisque Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Deuxièmement, le fait qu'il y a eu énormément de tensions, notamment du côté de la France, a refusé de signer le texte qui ne mentionnait pas la question des énergies fossiles. Troisièmement aussi, par exemple, le fait que l'Australie, qui était censée accueillir la prochaine COP, a finalement renoncé, et qu'un certain nombre de pays voisins du Pacifique ont dénoncé cette volte-face australienne, et que le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée a carrément eu des mots où il a dit « Mais dans ces circonstances, nous sommes tous mécontents », que je cite auprès de l'AFP, « Nous sommes tous mécontents et déçus que cela se termine de cette façon. Qu'est-ce que la COP a accompli au fil des ans ? Rien. Ce n'est qu'un festival de discussion qui ne fait pas porter leurs responsabilités aux grands pollueurs. » Alors, avant de discuter du bilan, Corinne Pelluchon, ce format même de la COP, de conférence des partis organisée par les Nations Unies, c'est un format international. Est-ce que cela signifie que l'écologie ne doit être pensée qu'à l'échelle de ce qu'en philosophie politique on appelle le cosmopolitisme ?
Bien, l'écologie, elle suppose de prendre conscience au moins de notre cohabitation de la Terre, y compris avec les autres vivants, avec les animaux, ce qui n'est pas toujours pointé dans les différentes négociations. Mais en tout cas, elle suppose la prise de conscience de dangers communs, même si les responsabilités sont différenciées et même si l'impact du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité est vécu de manière également hétérogène. Donc il y a la question de la justice climatique qui inclut aussi le problème d'intégrer dans l'étape de négociation les peuples indigènes, ce qui a quand même été fait. Alors donc c'est un format qu'on peut critiquer, mais ce qu'on peut surtout critiquer, c'est que malgré les bonnes intentions, et cette COP-là devait essayer de combler l'écart considérable entre la théorie et la pratique, la prise de conscience et l'action, eh bien, malgré cela, on reste quand même dans une conception ressourciste de la nature, dans une conception instrumentale de la nature, et je crois que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'on prend conscience des dangers extrêmes et graves, globaux, de l'érosion de la biodiversité, du réchauffement climatique, de l'acidification des océans et de la déforestation, hein, dont on pourra rappeler les différentes fonctions écosystémiques de cette forêt globale qu'est l'Amazonie, mais en même temps, on juxtapose à ces intentions-là et à cet impératif écosystémique de protection, et même le mot protection atteste ce manquement d'une réflexion plus profonde, mais on juxtapose à cela un comportement toujours instrumental, qui instrumentalise la nature et qui ne mettra pas vraiment de limite à la surexploitation et qui ne permettra pas la coopération. Puisque, justement, l'idée devant ces dangers globaux qui concernent l'humanité comme une et qui la désigne comme une, puisque la Terre, la biosphère, pointe le fait que nous sommes tous dépendants et qu'il n'y aura à terme ni vainqueur ni vaincu, eh bien, il faudrait effectivement la coopération. Mais ça ne se décrète pas. Ça suppose vraiment une prise de conscience beaucoup plus profonde. Et c'est là que les ressources de la philosophie et de plein d'autres approches, parce qu'elles sont plurielles, de l'écologie comme habitation de la Terre, eh bien, permettraient, en tout cas, sont des ressources pour approfondir ce lien aux autres vivants et aussi approfondir notre propre compréhension de nous-mêmes, non pas comme des êtres seulement pensés à la lumière de la volonté, de la liberté, d'une maîtrise, d'une capacité à prendre en main son destin, mais aussi comme des êtres qui ont une matérialité, qui mangent, qui boivent, qui sont dépendants des éléments, des écosystèmes, des aliments, de la nature et des autres vivants. Et c'est ça qu'il faut, et c'est en ce sens-là que vraiment, il faut dépasser ce rapport instrumental à la nature. Et moi, je dirais, pour finir et ne pas être trop longue, que les problèmes qu'on a, y compris avec la forêt et avec l'Amazonie, ressemblent un peu aux problèmes qu'on a avec l'océan. Et d'ailleurs, il y a vraiment des points pour en parler, hein, entre ce qu'est l'océan pour notre vie et la raison pour laquelle, même dans le droit international de la mer, on juxtapose un impératif écosystémique à, finalement, non seulement un vocabulaire, une ontologie, finalement, qui n'est pas marine ou quelque chose, en tout cas un rapport encore instrumental aux autres vivants, et aussi un vocabulaire de la souveraineté où c'est un peu chacun contre les autres. Et même là, même la prise de conscience des responsabilités évidentes du Nord par rapport au Sud, ça devient l'occasion ou un argument pour opposer les uns aux autres. Donc il n'y aura ni coopération, ni résolution de ces problèmes extrêmement importants et globaux sans un cap passé, sans une réflexion très radicale au sens de profonde, prise à la racine, et c'est peut-être l'apport des humanités environnementales, hein, puisqu'on nomme ainsi les approches plurielles qui ne séparent plus la nature et l'humain, mais qui envisagent de penser notre rapport à la nature à la lumière d'une philosophie de l'existence, où d'ailleurs celles et ceux qui travaillent sur les autres cultures peuvent aussi nous éclairer dans leur rapport au vivant.
Justement, la question de la déforestation, qui a été au cœur de cette COP, est-ce qu'elle ne s'inscrit pas dans cette tension que vous évoquez entre une conception ressourciste, instrumentale de la nature et de cette partie de la nature qu'est la forêt, et une autre conception, Anne Simon, philosophique si l'on veut, mais aussi peut-être littéraire? Est-ce qu'il n'y a pas cette vision-là d'une forêt comme espace de rêve, de poésie, d'émerveillement qui pourrait être réhabilité?
Oui, je pense que quand un certain nombre de représentants des peuples autochtones sont rentrés dans la Blue Zone, là où se déroulent les négociations de la COP, il y avait bien sûr la volonté de rendre visible le fait qu'on ne les consulte pas, le droit ne les protège pas leurs terres. Donc il y avait un certain nombre d'exigences juridiques qui étaient portées par ces représentants. C'est une irruption et je trouve que c'est intéressant de voir que voilà, y a des gens qui habitent sur place, qui sont dépossédés non seulement de leurs terres, mais aussi de la possibilité de parcourir, d'aller d'un lieu à un endroit quand on privatise les zones fluviatiles, par exemple. Et surtout, je crois aussi que l'important, c'est ce que portent ces peuples-là, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des cosmovisions, moi j'aime bien dire des relations au monde qui sont pétries de rituels, de mythes, de sensibilités qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, même si en Occident il y a encore plein de courants depuis très très longtemps, des courants littéraires qui portent d'extraordinaires modes de relations sensibles à la forêt. Et donc, si on fait disparaître ces peuples, c'est d'abord leur territoire, et par définition, eux et les espèces animales, végétales, etc., qui sont des vivants dans ces territoires, on perd des articulations au monde. Parce que ce qu'ils perdent aussi avec leur territoire, c'est pas seulement leur culture, comme on dit, c'est d'abord leur langue. Et les langues sont là pour... c'est pas un dictionnaire, une langue, ce ne sont pas des mots qui se succèdent les uns après les autres. C'est d'abord avant tout une syntaxe, une articulation de la vie. Et donc, quand ces peuples-là disparaissent, eh bien, ce qui disparaît, c'est des rapports diversifiés à la forêt. Et je pense que ça, c'est une véritable catastrophe, qui n'est pas simplement une catastrophe culturelle qui nous touche tous, hein, qui touche à la question du divers et de la multiplicité.
Il y a peut-être aussi une troisième dimension dans la manière dont, par exemple, la question de la déforestation, mais on pourrait aussi parler de la question de la souffrance animale, s'invite dans une COP30 ou dans des sommets écologiques. C'est ce décalage entre peut-être nos modes de vie quotidiens, où nous n'avons pas l'impression, en tant que consommateurs, dans une société comme la société française, nous n'avons pas forcément l'impression au quotidien de participer à la déforestation ou de participer directement à la souffrance animale. Est-ce que ça ne pose pas une question presque de décalage de conscience, Florence Burga ?
Oui, alors il y a plusieurs questions qu'on pourrait poser. En faisant le constat que les choses n'avancent pas sur le plan écologique ou sur le plan aussi de nos pratiques qui sont génératrices de souffrance animale, d'oppression animale, c'est se poser la question de savoir qui veut vraiment que les choses changent. Parce que il y a beaucoup de discours donc qui dénoncent les choses et vous faisiez allusion aux racines profonde de cette attitude qui peut-être puise dans un humanisme métaphysique. Mais voilà, qui veut vraiment que les choses changent ? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel immobilisme ? Et on a l'impression d'être un petit peu dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces COP ne semblent pas produire grand-chose au bout du compte. Nos dirigeants semblent avoir plus ou moins abandonné cette question de l'écologie. Les citoyens ne semblent pas non plus dans leur vie ordinaire faire des efforts. En tout cas, on voit que la consommation de viande croît, alors même que nous sommes de plus en plus informés sur les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Donc au bout du compte, on se dit où est le blocage en réalité ? Parce qu'il y a une sorte d'inertie générale. Et j'ai l'impression qu'on attend une espèce de feu vert ou d'encouragement qui ne vient de nulle part.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Florence Burga, puisque vous parliez notamment de la question de la souffrance animale et de l'origine de ce blocage, vous avez écrit un livre qui s'appelait « Animal, mon prochain », où vous essayez, pour revenir un peu à la racine de cette dévalorisation, de cette réification de l'animal, transformation du vivant en objet, de questionner ce phénomène-là à travers plusieurs domaines intellectuels un petit peu différents. À la fois en retraçant la généalogie d'une définition épistémologique de la connaissance de l'animal, en revenant sur la manière dont l'animal a pu être pensé dans la philosophie dite humaniste par certains auteurs, cœur, comme Descartes, comme dénué d'esprit, et en revenant aussi sur le fait que cette définition de l'animal comme étant dénué d'esprit coïncidait avec une définition juridique de l'animal comme chose, de l'animal comme objet, et donc de l'animal comme disponible à la consommation et à l'utilisation humaine. Est-ce à dire qu'il y a, je suis un peu caricatural, mais je le suis volontairement, dans l'histoire de la métaphysique et dans l'histoire de l'humanisme métaphysique que quelqu'un comme Descartes a pu représenter, une forme de responsabilité dans cette réification de l'animal?
Alors évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que ce sont des pratiques ancestrales d'appropriation des animaux qui ont pu être bien évidemment nécessaires à une époque ou préhistorique, par exemple, et que ensuite, en raison de ces pratiques qui se sont installées, une sorte de vision, de conception dévalorisante des animaux s'est installée, ou bien est-ce qu'il faut déjà porter un regard réifiant, dévalorisant, pour utiliser les animaux comme nous le faisons aujourd'hui, dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes auparavant. Et je pense qu'il est important de souligner aujourd'hui cet écart, ce gouffre entre une pensée qui s'est de plus en plus nourrie et raffinée pour dénoncer ces pratiques envers les animaux et penser aussi, essayer de répondre à la question qui sont les animaux, et en même temps des pratiques de plus en plus réifiantes. Donc on voit cohabiter en fait des choses qui s'opposent en fait les unes aux autres. Mais bien sûr, je crois que l'arrière-fond théorique est très important dans la mesure où il a imprégné les représentations communes et que si aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas Descartes ou l'histoire de l'humanisme métaphysique voient les animaux comme des êtres d'abord privés des qualités que nous reconnaissons aux humains, il y a évidemment tout le poids de cette histoire des idées.
Alors il y a un texte de Descartes, puisque nous parlons de lui, qui est régulièrement accusé par certains auteurs écologistes, ou même par certains militants, et même parfois qui est convoqué dans le débat public, qui est un extrait fameux du discours de la méthode, dans la sixième partie, où Descartes parle de l'homme comme devant devenir l'équivalent d'un maître et d'un possesseur de la nature.
Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie.
Corinne Pelluchon, ce texte-là, qui a pu faire régulièrement l'objet de l'interprétation que j'évoquais tout à l'heure, dans Les Lumières à l'âge du vivant, vous expliquiez qu'il était absolument insensé ou en tout cas décalé d'accuser Descartes d'avoir théorisé cette domination, d'avoir engendré ce que vous appelez par ailleurs le schème de la domination.
Oui, parce que d'abord pour Descartes, seul Dieu est cause finale, donc les choses n'ont pas été faites pour nous. Et quand on pense cela, eh bien on entre dans une série de fâcheries, je ne me rappelle plus exactement le texte, bon il le répète plusieurs fois, donc on n'est pas anthropocentriste, et son dualisme, humains, animaux, esprit-corps et épistémologique. Donc bon, il y a... Et puis moi je voudrais revenir... j'ai pas dit qu'il avait vu l'animal comme un être individué, qu'on appelle aujourd'hui sentient. Mais moi, je voudrais revenir à la grande rupture qu'il y a démographique et technologique qui nous sépare. de Descartes et même de tous les hommes et femmes du 17e, du 18e, 19e et même début du 20e siècle. Quand je suis née, à la fin des années 60, je ne dirais pas quand, eh bien nous n'étions que 3 milliards, nous sommes 8 milliards. L'industrialisation de l'élevage s'est imposée au XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, elle est partout. Donc, il est vrai que la réification et l'exploitation des animaux n'a jamais été aussi massive qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là. Alors, la question, pourquoi il y a eu aussi, il y a à déconstruire des préjugés, on est dans une émission qui s'appelle « Sans préjugés », les manières dont nous avons raté l'animal en le pensant parce qu'il n'est pas, la manière aussi dont nous avons fait de l'animal une catégorie homogène, nous avons et cela a été déconstruit, et tous les dualismes, c'est-à-dire les pensées binaires et qui justifient l'asservissement d'un être ou d'un terme par l'autre, dualisme nature-culture, humain-animaux, homme-femme, raison-émotion. Cela a été déconstruit. Et de manière libératrice, par tout un tas de penseurs et de philosophes, Derrida, Florence, les écoféministes, qui pointent ce dualisme. Et c'est libérateur, c'est un travail d'émancipation que de faire cette déconstruction-là, qui justifie en effet l'asservissement d'autres êtres et qui ampute notre rationalité. Car quand on accuse la raison, on oublie que, par exemple, le successeur de Descartes, le grand Spinoza, pour lui, la raison est amour. La raison est également quelque chose qui a un impact sur le régime de mon affectivité, qui produit un élargissement de ma subjectivité quand je prends conscience de ce qui me relie aux autres vivants, ce qui fera dire à Ennès, qui traduit en termes contemporains le message de Spinoza dans son travail sur l'écosophie, que eh bien, l'écologie peut être l'occasion justement d'un élargissement de sa subjectivité qui change vraiment son rapport à moi, aux autres et au monde, et fait que le désir de domination cède la place au pouvoir, pouvoir sur les choses cède la place, un rapport au monde où eh bien, l'épanouissement des autres êtres devient une dimension de mon propre épanouissement. Alors, les écoféministes iront encore plus loin. Mais c'est vraiment l'idée, tout ce travail-là, et ça montre le caractère stratégique de la cause animale, ça montre l'importance aussi, la révolution anthropologique qui est au cœur de l'écologie, pensée comme une autre manière d'exister, de penser la coexistence, et dont l'horizon est le rapport au monde, un rapport au monde différent, ça montre que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement profitable, même à l'humain. Mais évidemment, moi, ce que je propose, c'est de se placer du côté constructif de la déconstruction, c'est-à-dire de voir ce que sera une éthique et une politique qui prendrait au sérieux le fait que les animaux comptent, le fait que la nature n'est pas un décor, ni une ressource, ni un stock de ressources, et que nous, nous ne sommes pas seulement des êtres de liberté, d'un langage articulé, de volonté, mais que nous avons une corporéité, une vulnérabilité, et nous sommes dépendants des éléments, des aliments, des autres êtres, et que l'écologie n'est pas quelque chose de périphérique, mais la condition de notre existence. Et à partir de là, les normes, les finalités du politique ne sont plus seulement la réduction des inégalités, c'est déjà pas mal, et la sécurité entre nous, mais l'écologie s'installe au cœur, à la fois de la compréhension de nous-mêmes, de l'éthique et même des normes politiques. Donc c'est ça qu'il faut viser, avec aussi cette idée que nous sommes tombés, sans doute, parce qu'il ne faut pas faire une généalogie anhistorique de la raison, d'une rationalité qui était l'organe de l'universel chez Rousseau, lequel est quand même un amoureux des animaux, hein, ou Diderot, qui n'est pas, supplément en voyage de Bougainville, qui n'est pas quelqu'un qui au contraire, qui célèbre la pensée, on dirait sauvage, pour anticiper sur Claude Lévi-Strauss. Mais vraiment, il y a tout ça, et aujourd'hui, il faut vraiment essayer de voir pourquoi la raison est devenue un instrument de calcul, qui finalement fait qu'il y a la domination qui est toujours triple, comme disaient les théoriciens de l'école de Francfort. À la fois domination des autres, domination de la nature à l'extérieur de moi, écosystèmes animaux, domination de ma propre nature, répression d'une part de moi que finalement qui m'ampute, et pour selon moi, la violence que nous faisons subir aux êtres qu'on réduit au corps, en particulier les animaux, mais pas seulement, c'est justement une violence à l'égard d'une partie de nous-mêmes que nous méprisons, que nous rejetons. Donc c'est cette réconciliation avec cette corporéité, cette matérialité, cette aussi animalité, qui est à l'horizon aussi de la question de l'écologie comme autre existence, comme philosophie de la cohabitation avec les autres vivants. Et donc ça, je crois, ça, et dernière chose, c'est vrai qu'il faut se demander à qui profite le crime. Je veux dire, il est certain que les échecs de la COP, à un moment où il y a des livres merveilleux sur l'écologie, sur la cause animale, où ces sujets-là sont entrés dans les débats publics, ce qui n'était pas le cas quand toutes les trois nous avons commencé à travailler sur ces sujets. Eh bien, ça passe dans les âmes, dans le public, mais ça passe pas au niveau de nos responsables politiques ni des structures économiques. Eh bien, pourquoi ce schéma de la domination qui transforme tout en guerre ? Eh bien, je crois qu'il y a les lobbies. Je crois qu'il faut dénoncer le lobby de l'agro. Ils étaient là, hein, lors de la COP 30. Parce qu'il faut rappeler aussi que ce qui se passe avec cette forêt, c'est un peu comme avec l'océan, qui stocke du carbone, qui régule les températures, qui produit de l'oxygène, qui est une bibliothèque du vivant. C'est que si on continue comme ça, on va arriver à un point de bascule, comme l'océan, qui va entraîner la mort de 300 à 400 populations autochtones, hein, dans cette espèce d'immense, dans l'Amazonie, puisque c'est 9 pays hein, que ça couvre, hein, c'est 40 millions de personnes. Donc la question écologique, c'est pas seulement une question d'arbres, d'écosystèmes, c'est une question de justice à l'égard des autres, et c'est une question, vraiment, c'est la question aujourd'hui qui doit nous amener à repenser, à la fois de manière en déconstruisant des choses et en proposant des choses, et nous avons toutes les ressources. Il y a extrêmement des livres partout, extrêmement beaux, des approches plurielles, et ça passe pas. Donc là, je pense qu'il faut essayer de voir, nous, ce qu'on peut faire pour que nos politiques cessent justement de faire des politiques publiques où ils n'ont plus comme horizon ce monde commun à préserver qui est à la fois lié à toutes les générations, aux autres vivants et au patrimoine aussi culturel, et sans lequel, Hannah Arendt disait, les politiques sont pauvres. Et c'est ça qui se passe.
Vous parliez notamment tout à l'heure de déconstruire les dualismes dont la pensée a pu hériter ou qu'elle peut former naturellement, par exemple le dualisme entre la nature et la culture. Anne Simon, tout à l'heure dans mon texte d'introduction, j'ai fait exprès d'être un petit peu simpliste, c'est le propre d'une introduction, mais de réduire l'humanisme à sa version anthropocentrée. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'histoire imbriquée de la littérature et de la philosophie, une tradition d'un humanisme littéraire qui passe aussi par une valorisation, par un intérêt envers l'animal ? Et est-ce que ce ne serait pas fautif, caricatural, de réduire l'histoire de la pensée occidentale à ce dualisme nature-culture ?
D'abord, il y avait un très beau mot dans le texte de Descartes qu'on a entendu, ça s'appelle la santé. Corinne Pelluchon y est revenue, évidemment, Florence Burga aussi. Donc, l'anathème sur les siècles passés, les anachronismes ne nous permettent pas d'avancer vers l'avenir. On ne peut pas se couper de nos propres traditions en les caricaturant et surtout en les évaluant à l'aune de nos problématiques contemporaines qui posent des questions qui ne pouvaient pas se poser dans les siècles passés dans les mêmes termes. Donc, quand on fait ce type d'anachronisme, eh bien, du coup, on s'empêche de pouvoir s'ancrer dans des textes qu'on doit remettre à l'honneur ou des courants qui étaient des courants minoritaires à l'intérieur de ce que j'appelle un Occident O-X-Y-D-E-N-T, un Occident oxydé, qui est devenu hégémonique, qui rapporte du fric, il faut bien le dire. Et c'est pour ça qu'il est perpétué aujourd'hui pour le pire. Mais notre pensée, notre culture a été en permanence traversée par des textes et par des hommes et des femmes qui ne pensaient pas que la nature et la culture étaient opposées, qui n'étaient pas dualistes. Hein. Dans le mot culture, on entend la notion de culte, il y a l'idée de rendre hommage. Et à l'époque de Descartes, il faut savoir aussi que la nature, elle était, c'était quelque chose qui relevait aussi de la négativité et de l'adversité. C'était compliqué quand il y avait une récolte qui provoquait la famine. Et le petit poussé, par exemple, de Charles Perrault au XVIIe siècle en est une image.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, si on essaye de dépasser ce travail introspectif de la conscience occidentale ou ce travail généalogique avec tous les risques d'anachronisme aussi qu'il peut comporter. Et si on essaye de regarder vers l'avenir, Anne Simon, vous portez un concept que je trouve extrêmement intéressant, qui est celui de zoopoétique. Il faudrait peut-être entendre dans tous les sens du terme, qui me semble suggérer l'idée selon laquelle la question écologique doit nous amener à modifier non seulement nos comportements, non seulement notre organisation de la société, non seulement nos doctrines, mais aussi peut-être notre imaginaire, dans ce qu'il a de plus littéraire, dans ce qu'il a de plus charnel, pour inclure les autres formes de vivant. Est-ce que c'est ça le but de la zoopoétique ?
Je pense que donc la zoopoétique, c'est une approche des textes littéraires et même des arts qui a pour focale les animaux pluriels, qui sont très différents les uns des autres, mais aussi les humains qui sont des êtres animés, des êtres respirants, et voire des vivants entrelacés qui constituent des paysages qui sont beaucoup plus animés pour un très grand nombre de personnes qui nous écoutent là en ce moment qu'on ne le croit. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens savent se ressourcer dans la nature, qui est un mot qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, qui est un très beau mot qui vient de Nascor, qui veut dire engendrer. C'est la grande engendrante, c'est le grand vortex de la transmission, du jaillissement, etc. Voilà. Alors, la zoopoétique s'intéresse aux textes qui parlent des animaux et de nos liens à eux, mais s'intéresse aussi au fait que les animaux, et là je rejoins Florence Burga par exemple, émettent des signes, communiquent, laissent des traces, qu'ils écrivent à même le sol, dans le sillage des océans ou sur la page du ciel, en permanence des histoires que nous nous racontons, qu'ils nous racontent, et que donc on n'a pas à faire. On n'a pas un langage qui serait désincrusté de notre insertion dans le monde de la vie. En réalité, notre langage en permanence est en relation avec les autres vivants. C'est une question de focale. Et quand vous regardez un texte, vos bibliothèques ou vos filmothèques, et que vous vous demandez s'il y a des animaux à l'intérieur, c'est complètement sidérant, parce que d'un coup, vous allez vous rendre compte que de très très grands auteurs qui peuvent sembler anti-nature, un peu comme Sartre par exemple, sont en fait obsédés par les animaux. Il y en a plein, oui, qui traversent son œuvre, y compris des animaux perçus de façon négative, mais la négativité fait partie de la vie, comme la mort, comme l'adversité. Et puis d'autre part, vous allez vous rendre compte que il y a des petits auteurs qu'on peut remettre à l'honneur, par exemple Genevoix, dont on a beaucoup entendu parler au moment des commémorations de la boucherie de 14. C'est quelqu'un qui était aussi un très très grand écrivain des vies animales, avec une syntaxe qui tente de rendre compte de ce que peut être la vie d'une forêt, le rythme, la rythmicité d'une harde ou d'un cerf, etc. Et donc, voilà, vous avez parlé de Rousseau tout à l'heure. Rousseau constituait des herbiers. Bernardin de Saint-Pierre, il peut peut-être avoir l'air bêta parce qu'il pense que les melons sont découpés par la providence divine pour pouvoir faire des quartiers quand on est en famille. Mais quand on lit Paul et Virginie, c'est aussi un très beau texte sur un érotisme de Virginie, la Vierge, qui prend un bain et qui est environnée d'une nature luxuriante et qui se découvre amoureuse de Paul de façon extrêmement explicite. Donc voilà, oui, nos bibliothèques sont remplies d'animaux, elles bruissent et elles sont là aussi pour nous rappeler que la violence qui leur est infligée est terrible. Je laisserai parler Florence Burga, mais par exemple, toute la littérature de l'élevage industriel, elle n'est pas nouvelle. Toutes les rentrées littéraires aujourd'hui, nous avons des romans qui parlent de l'élevage industriel dans des termes extrêmement diversifiés. Bien sûr qui sont des textes critiques, mais ça commence avec Théophile Gautier, ça commence avec Plaisir cruel de Tolstoï, avec Jungle de Upton Sinclair vers 1909, un grand socialiste, avec surtout dans Berlin, Alexanderplatz, Alfred Döblin, qui est le grand écrivain de la décomposition de l'Europe au moment, à la fin des années 20 et au début des années 30, et le centre de son récit se passe dans les abattoirs de Berlin. Et puis je recommande à tout le monde de lire Scènes de la vie future de Georges Duhamel, je crois qu'on est en 1931, avec un chapitre qui s'appelle Royaume de la mort. Et Georges Duhamel, c'est quelqu'un qui a été chirurgien pendant la guerre de 14, engagé volontaire dans mon souvenir pour faire ça. Et il dit que quand il est à Chicago et qu'il est confronté à l'omnipotente porcocratie américaine et à la mise à mort de dizaines de milliers de têtes de bétail, et à leur transformation en tout ce qu'on veut, on assiste avec en plus la souffrance des salariés, bien entendu, à une déshumanisation de l'humain. Et l'humanisme, c'est ça aussi. C'est montrer quand l'humain n'est plus qualifiable d'humain.
Oui, tout à fait. Et la question de focale dont vous venez de parler, liée à cette question éthique, la question que je me pose, Florence Burga, en vous lisant, je pense à la fois à l'inconscient des animaux, je pense aussi à votre livre « Qu'est-ce qu'une plante ?» essai sur la vie végétale. Mais c'est peut-être moins applicable pour la vie végétale, mais en tout cas, quand vous vous intéressez à la vie animale, il y a évidemment cette question de focale qui se pose entre la pensée en première personne, qui est celle, dans notre cas, une pensée humaine, et essayer d'accéder, sinon à la perspective de l'animal, du moins essayer de la reconstituer. Dans quelle mesure cette question de focale, telle qu'elle se présente dans votre travail, est d'emblée une question, en tout cas coextensive, à une question éthique ?
Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quel est ce dispositif à l'arrière-plan qui fait que, précisément, nous ne voyons plus les animaux comme les textes littéraires sont capables de nous les montrer. Et j'ai été très sensible au texte que Anne Simon vient d'évoquer, parce que j'ai découvert ce texte de Duhamel après avoir été une lectrice passionnée de la chronique des Pasquier. Bon. Et en effet, on trouve dans la littérature une richesse qui nous permet d'accéder directement à ces vies en première personne que la philosophie ou les diverses sciences en fait, qui essayent de penser l'animal ne parviennent pas à réaliser. Pourquoi ? Parce qu'elles partent toujours du modèle très élaboré de ce qu'est l'humain et se demandent si les animaux sont capables, c'est un terme qui revient sans cesse, de faire ceci ou de faire cela. Il se trouve qu'en ce moment, je relis un peu l'histoire de la primatologie et c'est très frappant de voir qu'on aborde les animaux en se demandant s'ils sont des humains. Bon, ce qui est évidemment une question que dénonçait par exemple Canguilhem dans toutes ses recherches où il disait on leur pose des problèmes qui sont les nôtres et pas les leurs. Donc bien évidemment, on voit comment s'articule cette pauvreté ontologique des animaux qui est nourrie par une partie de la philosophie, par une partie des approches scientifiques, au fait, évidemment, de les traiter comme des êtres qui sont avant tout dépourvus de ce dont l'humain est doté, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, elles sont profondément articulées, d'où la nécessité d'un travail qui revalorise, en fait, l'ontologie animale pour essayer de libérer un petit peu cette éthique qui est trop exclusivement centrée sur l'humain, alors que, Corinne et Anne l'évoquaient, ce que nous avons en commun avec les animaux, c'est précisément cette vie sensible, le fait de tenir à sa propre existence comme à la chose, évidemment, la plus chère et l'unique chose dont nous disposons, et que c'est à partir, en fait, et c'est la leçon de Rousseau, c'est à partir de cette considération de l'être sensible qui fait cette communauté entre les humains et les animaux, que nous pouvons penser un droit des animaux. Alors, personnellement, je placerais la rupture ontologique entre la vie végétale et la vie animale. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais voilà, je pense que les plantes ne vivent pas leur vie en première personne. Elles ne connaissent pas la naissance et la mort. Elles ne vivent pas dans le souci d'elle-même et dans cette inquiétude qui pèse finalement sur tout être qui est destiné à mourir.
C'est un sujet que j'aurais aimé aborder, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps, mais c'est ce risque de l'animisme dont vous parlez dans votre livre « Qu'est-ce qu'une plante ?» Corinne Peluchon, à propos de cette idée d'une communauté bioéthique entre les vivants. Dans La démocratie sans emprise ou La puissance du féminin, vous proposiez ce concept d'un existentialisme écologique. Dans quelle mesure cet existentialisme est la prolongation, puisque Anne Simon parlait tout à l'heure de la place des animaux chez Sartre, de l'existentialisme classique?
Alors en fait, j'ai consacré, c'est un autre livre où j'ai consacré ça, je reprends un petit peu dans Démocratie sans emprise, c'est dans L'être et la mer pour un existentialisme écologique. Pour le dire vite, je disais que l'existentialisme est un courant intéressant parce qu'il met, il pointe l'ambiguïté de l'humain, son ambivalence. Et moi, ma question maintenant, depuis longtemps, c'est de savoir comment expliquer que l'humain aille si souvent contre ses intérêts. Pourquoi ce décalage entre la pensée et l'action? Il faut bien aussi comprendre les ressorts inconscients de nos comportements destructeurs. Par rapport à l'écologie, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Donc l'existentialisme, qui pourtant célèbre beaucoup la liberté, tout ça, mais évidemment, était intéressant. Mais évidemment, l'existentialisme que je proposais n'est pas un simple coexistentialisme qui intégrerait les autres vivants et le fait que nous cohabitons avec eux, et ce qui a des implications normatives énormes. Il s'agissait pour moi de penser l'humain à partir d'un élément qui lui est essentiel, l'océan, mais qui lui est également étranger, pour aussi décentrer radicalement le regard, ce qui est la grande affaire de l'écologie et de l'éthique animale qui a cherché à décentrer, à arracher l'anthropocentrisme. Mais on n'y arrive jamais vraiment. Et en prenant au sérieux justement le fait que l'humain peut être dépassé par lui-même, qu'il peut être submergé, et en travaillant, alors pas seulement sur une ontologie des fluides qui justement, parce que quand on pense l'élément marin, l'élément liquide, on doit accomplir cette ruine de la représentation qui est au cœur de la phénoménologie et de l'éthique animale, etc. C'est-à-dire penser que ce n'est pas seulement en concevant notre condition terrestre qu'on arrive à penser les autres vivants, mais quand on pense le monde, les autres, à partir de la mer, de cet élément étranger, eh bien, on est complètement déplacé, on est aussi ramené à sa place. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Ce qui m'intéresse ici, c'était de prendre au sérieux, pas seulement le vivant, que les autres existentialistes ont moins pris au sérieux, mais enfin, il y a quand même Merleau-Ponty, voilà, puis il y en a plein d'autres. Mais c'était vraiment l'idée d'une prise au sérieux de notre déréliction. Je crois que vraiment, le fait que, pour moi, je base tout aussi sur le déni de la mort, le fait que nous soyons impuissants, et c'est le cas actuellement, réactive cette angoisse de mort et conduit à des comportements non écologiques.
Merci beaucoup à vous trois pour cette passionnante émission qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais au plaisir d'en refaire une. Merci beaucoup à Aline Biette de l'avoir préparée et à Souad Boukorsa de l'avoir réalisée et mise en onde. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site et l'application de Radio France. Je vous dis à bientôt.